Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, comme un bug de l'histoire, des pensions pour certains anciens collabos du Troisième Reich ou d'anciens combattants de la Wehrmacht, versées aujourd'hui encore par l'Allemagne à 54 personnes en France. Jean-Luc Mélenchon veut les faire interdire et donner l'argent à la Fondation Charles de Gaulle. Là, ça n'est pas encore de l'histoire, mais toujours de l'actualité. 14 djihadistes français de Syrie livrés aux militaires irakiens, alors que la France ne sait toujours pas quoi faire de ses ressortissants. Dans 20 minutes, Ali, vous poserez la question.
À l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, invité du grand entretien, le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
À la une également, le bras de fer à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Il continue alors que la diplomatie va s'activer à Bogota aujourd'hui. Le coup de jarnac des sénateurs sur la loi anti-casseurs et les Oscars à Hollywood. Meilleur film, Green Book. Meilleur acteur, Rami Malek alias Freddie Mercury, meilleur réalisateur Alfonso Cuarón pour Roma, une toute première statuette pour Spike Lee, palmarès analysé par Eva Bétan dans quelques instants.
France Inter.
Ce sont les Belges qui ont mis le doigt sur cette étrange perpétuation de la bureaucratie allemande. Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du régime nazi, des anciens collabos continuent à toucher des pensions jusqu'à 1300 euros par mois et avec eux d'anciens enrôlés de force dans la Wehrmacht. Ils sont 2000 dans le monde aujourd'hui, 18 en Belgique qui a décidé de mettre fin à ses avantages jeudi dernier, 54 en France selon le ministère allemand du Travail, dont s'empare Jean-Luc Mélenchon pour demander que cela s'arrête, Fabien Randrianarizoa, et que les sommes versées soient restituées.
Récupérer l'argent des pensions liées au régime nazi et en faire don à la Fondation Charles de Gaulle. Voilà la proposition de Jean-Luc Mélenchon, sans distinction entre des victimes incorporées de force comme les Alsaciens Mosellans ou de vrais collaborationnistes, explique Éric Coquerel, député de la France Insoumise.
Moi, je veux bien examiner cas par cas, mais enfin, déjà, de toute façon, incorporé de force, il faut remarquer qu'il y a des gens qui ont refusé d'être incorporés de force. Hein. Justement, c'est assez symbolique de verser cet argent à la Fondation Charles de Gaulle, parce que c'est quelqu'un qui a abandonné à Dinon et est parti en Angleterre pour justement ne pas faire partie d'une armée de la défaite.
Pour l'instant, seul le ministère du Travail allemand connaît le profil des 54 Français. Mais pour Serge Barcellini, président de l'Association du Souvenir Français, ce n'est pas ce chiffre qui est important.
Si on nous parle de 54 aujourd'hui, c'est un chiffre totalement résiduel. Ça serait tout à fait intéressant de savoir combien il y en avait en 1950, car en définitive, cela veut dire, pour qu'il y ait pension, il faut qu'il y ait demande de pension du côté allemand.
La loi allemande de 1951, à l'origine de ces pensions, exclut toutefois les ex-membres de l'ASS et les personnes condamnées pour crimes de guerre.
En Belgique, on estime que 38 000 personnes ont bénéficié de cette rente depuis la fin de la Seconde Guerre. Et si la communauté internationale jugeait les djihadistes partis en Syrie ou en Irak comme l'ont été les nazis à la fin de la guerre? C'est une idée de Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire socialiste, qui demande un Nuremberg du djihadisme, alors que les Occidentaux ne savent pas quoi faire de leurs ressortissants arrêtés à la faveur de la chute de Daesh. 14 Français, par exemple, viennent d'être livrés par les forces démocratiques syriennes à l'armée irakienne, Claude Guibal.
14 Français sur une vingtaine d'étrangers au milieu d'environ 150 djihadistes irakiens. Ce sont les FDS, les milices majoritairement kurdes soutenues par la coalition internationale qui les auraient livrés en fin de semaine aux Irakiens. Ce sont des sources militaires irakiennes qui l'affirment à l'agence Reuters. Les FDS l'ont encore rappelé hier, ils n'ont pas les moyens de garder sous leur surveillance tous les djihadistes étrangers capturés pendant l'opération de reconquête du nord et de l'est de la Syrie. Certains de ces djihadistes ont aussi combattu en Irak, notamment à Mossoul, et la France a plusieurs fois exprimé le souhait que ceux qui s'y sont rendus coupables de crimes soient jugés sur place. Pour la France et pour les autres pays européens, il est d'autant plus urgent de trouver une solution que Donald Trump fait pression sur eux pour qu'ils rapatrient leurs ressortissants, un sujet hautement sensible au moment où Européens et Américains négocient la mise en place d'une force commune de stabilisation dans cette zone.
Et au moment où le président français est en visite officielle à Paris, il rencontrera Emmanuel Macron aujourd'hui. Au Sénégal, pas de résultat officiel du premier tour de la présidentielle, mais le camp du sortant Macky Sall revendique déjà la victoire avec 57% des voix, alors que les candidats de l'opposition anticipent, eux, un second tour. Venezuela-Colombie, frontière fermée pour l'aide humanitaire. La marine vénézuélienne bloque aussi les bateaux. Un cargo venu de Porto Rico a dû rebrousser chemin. La crise sera au menu aujourd'hui de 14 pays sud-américains à Bogota, en présence du vice-président Mike Pence, du président vénézuélien aussi, l'autoproclamé Juan Guaido, qui a perdu son pari de faire rentrer l'aide et les vivres, les médicaments également ce week-end. On sort de 2 jours d'affrontement à la frontière entre ses partisans et l'armée fidèle à Maduro, pendant que le bras de fer se poursuit justement donc à cette frontière. Envoyé spécial de France Inter sur place à Cúcuta, Benjamin Illy.
On est avec vous. C'est le président colombien Iván Duque. Il est là sur le pont frontalier pour constater les dégâts. Ces camions de l'aide humanitaire encore fumant. Il est venu aussi saluer les Vénézuéliens au lendemain du combat. Quelle douleur, confie Iván Duque. Vous avez vu comment la dictature a brûlé la nourriture et les médicaments. C'est de la barbarie. La dictature a scellé sa défaite morale et diplomatique.
Alors juste en dessous du pont qui mène à Ureña, au Venezuela, il y a ces sentiers illégaux par lesquels passent les Vénézuéliens qui n'ont pas de papier pour aller en Colombie.
Santiago.
Santiago, 27 ans, raconte qu'il était de l'autre côté de la frontière samedi. Il dit que ce n'était pas beau à voir. Beaucoup de bombes de gaz lacrymogène. Les collectivos sont arrivés. Ils ont déclaré le couvre-feu. Ils ont demandé qu'on reste chez nous. Nous, on ne veut pas de ça. Nous voulons un pays libre, démocratique.
¿Puedes hablar de los colectivos?
Bon, je ne peux pas parler des collectivos. C'est un groupe armé, c'est un gang, en lien avec le gouvernement. Je ne peux pas donner plus de détails.
C'est quoi le risque?
¿Cuál es el riesgo? La muerte.
La mort. C'est ça le risque s'il nous parle.
A luego.
À Cúcuta, Jérémy Tuil, Benjamin Illy, France Inter.
8h06, à la suite du journal, un sommet décevant au Vatican pour les victimes de prêtres pédophiles.
Quelques jalons ont été posés, un protocole sera rédigé à destination des évêques pour définir les procédures à suivre, mais rien de plus concret, dénoncent ceux qui attendaient beaucoup de cette première dans l'Église. Et voilà, en tout cas, un cas qui n'a pas été tué, celui de cet ancien prêtre de Perpignan, jugé aujourd'hui par la Cour d'assises des Pyrénées-Orientales. Âgé d'une 50aine d'années, il est accusé, François David, d'avoir abusé de 3 adolescents à Canet en Roussillon à la fin des années 2000.
C'est à partir de 2006 que les cours de catéchisme chez Monsieur le Curé auraient commencé à déraper. Plusieurs adolescents disent avoir participé à un jeu surnommé « On the table » qui consistait à comparer la taille de son sexe directement sur la table du presbytère. Le curé, âgé de 37 ans à l'époque, est décrit comme obnubilé par le sexe, n'hésitant pas à adresser des messages électroniques très crus aux jeunes garçons sous le pseudonyme de Falustor. Avec 3 jeunes adolescents, les faits seraient allés encore plus loin. Le prêtre leur aurait fait consommer de l'alcool et du Viagra, puis il leur aurait imposer des masturbations et des fellations réciproques, toujours au presbytère. Le tout accompagné d'un petit sermon où il était question notamment de combattre le diable. Pour certains, ces faits auraient duré plusieurs mois. Et il faudra attendre 3 ans avant qu'une première plainte soit déposée. Entre-temps, le curé a changé de paroisse. Au moment de son interpellation en 2009, il officie à Perpignan, paroisse Saint-Joseph, où il est également aumônier des scouts d'Europe et d'un collège privé.
2 gilets jaunes arrêtés la semaine dernière à Toulon. Selon France Bleu Provence, ils s'apprêtaient à commettre une attaque contre la préfecture du Var. C'est un autre manifestant qui a contacté la police en jugeant que les choses allaient trop loin. Voilà qui nous amène à la loi anti-casseurs et au coup fumant que s'apprêtent à faire les sénateurs. C'est d'eux que vient la proposition de loi. Elle a été modifiée par les députés début février et les sénateurs seraient prêts à la voter en l'état. Une bonne nouvelle pour le gouvernement sur le papier, Karine Bécard, parce qu'en creux les lignes, voilà de quoi bien l'embarrasser.
C'est ce qui s'appelle un cadeau empoisonné. Si le Sénat, comme il semble s'y préparer, accepte de voter exactement dans les mêmes termes que l'Assemblée, sa fameuse proposition de loi contre les casseurs, les sénateurs permettraient alors d'accélérer la procédure parlementaire et d'offrir plus vite au gouvernement un texte pour affronter les violences hebdomadaires. Le souci, c'est que si le texte est définitivement validé dès la semaine prochaine, cela signifie aussi qu'il ne pourra plus être retravaillé. Or, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'y était engagé auprès d'une partie de la majorité, auprès des 50 députés de La République En Marche qui avaient refusé, début février, de voter cette proposition de loi du Sénat qui porterait atteinte, selon eux, à la liberté de manifester. D'ailleurs, la gauche à l'Assemblée se prépare déjà à saisir le Conseil constitutionnel qui pourrait censurer l'article 2 en particulier. Donc, en adoptant tout de suite cette loi, le Sénat piège le gouvernement en le fâchant, avec une partie non négligeable de sa majorité et en le faisant éventuellement passer pour liberticide auprès des Français.
Les sénateurs, encore eux contre la politique anti-Huawei du gouvernement, Huawei l'équipementier chinois, en pointe dans l'installation de la 5G qui fait peur aux États-Unis comme à l'Europe, qui redoute un cheval de Troie de l'espionnage chinois. Mais le Sénat a rejeté un texte qui voulait s'en prémunir. Les opérateurs auraient dû demander une autorisation avant de développer leur réseau. Une nouvelle proposition est donc en préparation, Hélène Filly, proposition qui parle de défendre la sécurité nationale.
L'arrivée de la 5G va créer de nouveaux risques car on pourra accéder aux infrastructures à distance. Et il faut se méfier de tous, juge le député Éric Botorel qui devrait porter le texte.
Il faut qu'on ait peur de tous celles et ceux qui portent la menace. La question c'est de savoir combien de portes d'entrée on va laisser ouvertes. Le rôle de la puissance publique, c'est pas de fermer une porte à un acteur parce qu'il s'appelle Huawei, mais c'est de s'assurer que toutes celles et ceux qui participent des infrastructures eh bien, soient des acteurs qui jouent le bon jeu.
La vigilance est légitime, mais les opérateurs mettent en garde contre ce nouveau processus d'autorisation, comme le PDG d'Orange, Stéphane Richard.
L'autorisation, sur quels critères elle va être donnée? C'est ça le point. S'il n'y a pas de critères objectifs, on passe dans autre chose. Moi, je souhaite qu'on définisse de façon précise qu'est-ce qu'on attend en termes de prescription de sécurité à nos équipementiers pour qu'ils puissent intervenir sur le réseau national.
Les concurrents de Huawei comptent en tout cas profiter de cette défiance. À Nokia, c'est même un argument tout trouvé contre l'énième plan social en cours pour le délégué CFDT Pascal Guilleneuf.
C'est directement un argument pour défendre l'emploi, c'est aussi la protection de la souveraineté en France. Que dire si le réseau, par exemple, État chinois, passait à côté des sous-marins à Brest ou à Toulon? Aujourd'hui, c'est possible. Nous, on veut faire en sorte que soit appliqué un principe de précaution.
Huawei affirme de son côté qu'il respectera toutes les mesures qui pourraient être prises.
Voilà, la nouvelle proposition sera débattue le 8 avril à l'Assemblée. Ascoval et Fort Blanquefort, même combat, celui de deux usines sans repreneur. Pour Ascoval, il y en avait un, mais il n'a pas d'argent. Pour Fort, c'est la maison mère américaine qui refuse la reprise. Les parties prenantes de ces deux dossiers chauds seront reçues aujourd'hui et demain à Bercy par Bruno Le Maire. Roulement de tambour, Ali et tous, la nuit du suspense s'achève à Hollywood, la 91e cérémonie des Oscars. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
C'est Green Book qui remporte l'Oscar du meilleur film, sorti il y a quelques semaines chez nous. On verra tout à l'heure quel a été le destin de Roma. Ménageons nous aussi du suspense. Ce qu'on peut dire, Eva, c'est qu'il n'y a pas eu de razzia d'un film plus que les autres et que ce palmarès que vous avez suivi toute la nuit dessine une certaine image.
Ah oui, très net. Hein. Ce qui ressort de ce palmarès, c'est que plusieurs films primés mettent l'accent sur le racisme subi par les Noirs. De quoi parle Green Book de Peter Farrelly, qui reçoit 3 Oscars importants, un film, scénario et second rôle à l'acteur noir Mahershala Ali. Il raconte la ségrégation raciale dans début des années 60 aux États-Unis. Le Green Book, c'est quoi? C'était le livre de voyage des Noirs quand ils traversaient les États-Unis, où ils avaient le droit d'aller, où ils n'avaient pas le droit d'aller. Donc le film joue sur l'inversion des rapports de domination. C'est Viggo Mortensen, qui est un blanc pas éduqué, un peu raciste comme l'était tout le monde, qui devient le chauffeur de l'homme éduqué du noir, artiste de renommée mondiale, pour faire une traversée du sud américain raciste. C'est pas un film militant, c'est un film, je dirais, d'un humanisme subtil. C'est un film qui dit voilà, et ça nous semble incroyable de voir ça aujourd'hui. Autre chose importante, on a vu Spike Lee monter sur scène, recevoir un Oscar, standing ovation, un seul Oscar d'accord, celui du scénario adapté. Mais Black Lanceman, qu'est-ce que c'est? C'est aussi le racisme, c'est sous un ton de comédie, il montre la bêtise crasse de ce que pouvait être le Ku Klux Klan dans les années 70. On a vu monter sur scène Regina King, Oscar du second rôle, femme noire pour un film de Barry Jenkins, Sybil Street m'était compté à partir d'un livre de James Baldwin. De quoi il s'agit là aussi? Il s'agit du racisme envers les noirs. Pour la justice n'est pas égale pour tout le monde. Donc, et puis il y a aussi, je dirais, dans ce palmarès, le versant positif, qui est une belle image des noirs. Et là, c'est deux Oscars techniques plus la musique pour un blockbuster avec les premiers héros noirs qui est Black Panther, dont le réalisateur est un jeune metteur en scène noir américain qui s'appelle Ryan Coogler. Donc vous avez à la fois l'ancienne génération Spike Lee et la nouvelle génération des trentenaires.
Alors, meilleure actrice Eva pour sa performance dans La Favorite, Olivia Colman.
Yes.
Rami Malek, sacré meilleur acteur.
Avec
pour
beaucoup de dents dans la bouche.
Se dit très blanche.
Dans le film, très blanche.
Mais formidable.
Et
formidable.
Roma, tout ça, Eva, quid du film du Mexicain
Cuarón. Alors, c'est très intéressant. 3 Oscars. Donc, meilleur réalisateur, c'est le deuxième film en deuxième prix en importance. Meilleure photo, la photo est sublime. Et meilleur film, étranger. C'est-à-dire tout sauf ça. Le ça, c'est quoi? Tout sauf meilleur film. Et c'est intéressant parce que pour Netflix, bien sûr que c'est une victoire, mais leur puissance est telle que c'est pas un problème.
Que le film est diffusé que sur Netflix.
Oui, mais c'est dans le symbolique. Meilleur film, il y avait un côté coup de tonnerre. Il n'y a pas ce coup de tonnerre. En même temps, il faut dire qu'il n'y a que Netflix qui a eu le courage de diffuser ce film. Les autres distributeurs s'étaient dégonflés. Il y a aussi la langue qui a joué. C'est un film en espagnol. Et les Oscars, jamais on remet un prix à un film en espagnol. C'est l'histoire du nounou dans le Mexique des années 70. Il a eu une petite connotation politique, le Boko Haram.
Il y a des milliers de personnes dans le monde entier dont les droits du travail sont bafoués et qui ne sont jamais représentés dans les films.
Conclusion.
Très bien. À vous, Eva.
Oui, le palmarès était formidable. C'est dommage qu'à part Spike Lee et Cuaron, les autres étaient un peu diesel et un peu presque sous anxiolytique. Donc, ils avaient une occasion de prise de parole extraordinaire avec ce palmarès. Vous avez ils étaient merci papa, merci
une
maman.
Une très mauvaise nuit, donc Eva
non,
Bétan.
Non, pas du tout. Les films sont très bien. Les films comptent plus que le reste.
Merci, merci Eva Bétan. Tout le palmarès de cette 91e nuit des Oscars sur franceinter.fr.
Vive le cinéma. Merci Florence Paracuelos.